J'ai glissé, chef.
Figurez-vous que Thérèse n'est pas moche, elle n'a pas un physique facile.
J'ai du mal à parler parce que j'ai les dents qui poussent.
Quand on parle pognon, à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute.
Tu me fends le cœur.
Si je connaissais le camp qu'a fait sauter le pont.
Ce soir, je vais conclure.
La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant.
C'est pas son jour, dites-donc.
C'est jamais son jour.
Il n'y a pas d'hélice, c'est l'as.
C'est là qu'est l'os.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Vous écoutez Radio Grand Air, votre radio qui aime le cinéma, et on se retrouve aujourd'hui avec Pascal après une petite semaine de pause.
Un peu chaotique. Au niveau technique.
Voilà, nous avons eu quelques petits soucis de technique. Nous avons résolu le problème et on très très heureux de te retrouver, Pascal, en chair et en os.
Absolument, et au studio en plus.
Exactement.
Studio, oui. Alors, bonjour Christophe, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Grand Air. Soyez tous et toutes les bienvenus dans ce numéro 82 d'Entracte.
82, oui, puisqu'on suit effectivement, même si on n'a pas eu l'émission la semaine dernière, mais c'est bien la 82,
oui,
cette semaine.
Oui, c'est vrai.
Avec, évidemment, quelques sorties cinéma pour cette première semaine de vacances, Pascal.
Alors là, il y aura plein de films à la brèche en ce moment. Alors, en ce moment, le cinéma bat son plein. On reçoit beaucoup de monde en ce moment. Il y a des films qui marchent très très bien. Déjà, à commencer par Le Règne Animal.
Ah oui.
Le Règne Animal marche très très bien. Alors évidemment, pourquoi? Parce que il a été tourné en partie dans le secteur ici. Il y a une scène qui a été. Alors déjà, la scène d'ouverture a été tournée à Codéran. Ensuite, il y a une scène d'un véhicule apparemment dans une rivière qui a été tournée au Flé.
Ah oui, d'accord.
Oui, j'ai rencontré des gens là qui ont reçu du monde, notamment le staff et tout ça, qui était un petit peu autour du tournage là. Et puis
c'est très intéressant.
Ça a été tourné dans les Landes aussi. Je l'ai présenté ce film. Mm-hmm. Il y a pas si longtemps que ça. Donc ce film-là marche très bien. Si tu inclus un petit peu la touche locale, plein de gens qui ont été curieux un petit peu sont venus voir le film. Et ça c'est très très bien. Il y a Bernadette aussi qui marche bien.
Ah oui, Bernadette, ouais, c'est le biopic de la première dame de France. Ouais.
Paris aussi, hein, qui a eu peut-être un peu de mal à démarrer, parce que les gens étaient un petit peu dubitatifs par rapport à ce film-là. Et puis après, la fréquentation a fait son chemin et le film est très, très bien fréquenté. Hein. Mm-hmm. Voilà, puis là, on passe une phase où effectivement, ce sont les vacances. Le cinéma se tourne vers les petits, les enfants. On va dire que tout tourne un petit peu autour de ça, quoi. Donc, il y a plein de films à la brèche en ce moment, hein. Des films, des animations dont on va parler tout à l'heure. Hein. Donc on va parler évidemment de la dernière création de Chiara Malta et Sébastien Lodenbach, Linda veut du poulet. Le titre fait rire, mais c'est vrai en plus. Hein,
J'adore le poulet, c'est bon. Hein.
On va parler aussi de la dernière création de Samantha Cutler et Daniel Snaddon, c'est Les Tout Rouges et Les Tout Bleus.
Ouais.
On va parler également aussi de la dernière création d'Hayao Miyazaki.
Très bien.
Le garçon et le héron. Mm-hmm. On va parler aussi du dernier film de Albert Dupontel, donc Second Tour, voilà, qui je pense sera aussi fréquenté, ainsi que le Miyazaki d'ailleurs.
Mm-hmm. On ira dans le monde un petit peu politique. Hein.
Voilà. On va parler aussi du dernier film de Iris Kaltenbach, donc Le Ravissement. Ainsi que du film Lost Country, donc de Vladimir Perici. Donc, il y aura aussi une rencontre réalisateur avec cette personne-là, donc à la brèche. Hein. Mm-hmm. Et il y aura aussi la nuit Halloween.
Ah oui, c'est vrai.
Alors, moi, je rigole parce que je repense.
tu veux pas nous faire Halloween
tout à l'heure, avec ta modulation de voix. Non, c'est marré quand même. Non, c'est chouette la technique quand même.
On en fera un petit coup tout à l'heure.
Voilà ce qu'on peut faire avec une table de mixage, c'est trop cool. Franchement, j'apprécie.
Voilà, on se marre à la radio, c'est bien.
Et dans le cadre donc, de la sortie du film, donc, le garçon et le héron, j'ai choisi comme personnage de la semaine, j'ai choisi un réalisateur, évidemment, un des plus grands réalisateurs japonais de notre époque. J'ai nommé Monsieur Hayao Miyazaki.
Un maître. Un voilà, maître en la personne.
Un maître en la personne, bien sûr. Il y a un grand, grand réalisateur. Voilà, quelqu'un qui a beaucoup d'idées, quelqu'un qui raconte de belles histoires, quelqu'un qui raconte des histoires sur lesquelles on réfléchit aussi. Hein. Il y a toujours des thèmes derrière qui viennent, qui nous amènent un petit peu à, on va dire, à approfondir, on va dire son œuvre, à réfléchir dessus. Et je trouve ça chouette. Et en plus, il faut savoir une chose, c'est aussi... Hayao Miyazaki rentre dans le cursus scolaire, si tu veux, de l'éducation à l'image, tout ça, et, depuis des années d'ailleurs. Depuis des années, du Miyazaki, moi j'en parle, ça, j'en passe depuis. Les premiers que j'ai passés, c'était en 35 mm, et on en passe encore. On en passe encore, et c'est très bien, parce que c'est un excellent support. Et en plus, c'est du manga, donc c'est une œuvre japonaise, et c'est bien aussi de s'évader un petit peu, d'aller voir un petit peu comment on réalise là-bas. Et puis évidemment, là, on a affaire à un maître en la matière. Pas grand monde qui lui arrive à la cheville. Donc c'est un vieil homme, Hayao Miyazaki, on va le découvrir tout à l'heure, mais c'est quelqu'un qui reste aussi, toujours aussi vivace. Voilà, au niveau de ses créations. Ouais. Oui, mais surtout c'est merveilleux, Miyazaki, c'est l'animation, c'est la couleur aussi, c'est merveilleux à voir, hein. c'est très harmonieux. Hein. Donc c'est super chouette. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce monsieur. Voilà. Mon personnage de la semaine.
On verra, on sent peut-être les coulisses, hein, comment réalise-t-il ses créations.
Alors,
c'est impossible.
Par contre, j'ai pas poussé sur la technique de Hayao Miyazaki.
Ça sera peut-être un autre sujet qu'on évoquera plus tard dans une autre émission.
Ouais, je vous ferai un gros papier là-dessus parce que je pense que ça sera assez long déjà à rédiger, hein, parce que mon avis, ça va pas être simple.
Et on va commencer par les plus jeunes, hein, semaine de vacances, et c'est normal puisqu'on va à la brèche profiter de deux beaux rendez-vous avec aussi des animations qui seront proposées en aparté à la brèche. On va commencer par Linda veut du poulet.
Voilà, alors on va commencer par ça, oui. Donc c'est un film franco-italien d'1h16, hein, un film d'animation comédie famille. Hein. Alors c'est de Chiara Malta et Sébastien Lodenbach. Alors ce prix a reçu... un prix, le prix de la Fondation Gann, hein. Il a déjà été récompensé ce film-là, donc ça sera à partir de 6 ans. Alors de quoi parle Linda veut du poulet ? Alors non, ce n'est pas Linda qui a pris la bague de sa mère Paulette. Cette punition est parfaitement injuste. Et maintenant, Paulette ferait tout pour se faire pardonner. Même un poulet au poivron, elle qui ne sait pas cuisiner. Mais comment trouver un poulet un jour de grève générale ? De poulailles en camion, de pastèques, de flicailles zélées en routier allergique, de mémé en inondation, Paulette et sa fille donc, partiront en quête du poulet, entraînant toute la bande de Linda et finalement tout le quartier. Mais Linda ne sait pas que ce poulet, jadis si bien cuisiné par son père, est la clé de son souvenir perdu. Quel drôle de scénario. Et moi, je trouve ça vachement rigolo, je trouve. Alors, Linda vu du poulet, évidemment, a obtenu aussi également le cristal du long métrage au Festival international du film d'animation d'Annecy, hein, cette année. Hein. Donc, en quoi il a quand même été multi-remarqué. Hein. Donc, Linda vu du poulet est un film drôle et tendre à destination de toute la famille. Un film qui parle de l'enfance comme un enfant le ferait, sans mièvrerie, sans emphase, avec moquerie, insolence et poésie, affirment les réalisateurs. Alors, le film se déroule de nos jours, hein, dans une petite cité ordinaire, un jour de grève générale. Il ne s'agit pas de combattre un monstre ou d'évoluer dans un monde fantastique, mais simplement de trouver un poulet. Ce poulet est un MacGuffin, c'est-à-dire un prétexte pour suivre une mère et sa fille, toutes les deux marquées par le décès du père il y a des années de cela. Et comme nous dit le réalisateur, loin d'être une histoire de mort, c'est donc surtout une histoire de vie. La narration se dirige progressivement vers le collectif. Paulette et Linda entraînent avec elles de plus en plus de monde comme un aimant. On passe d'une deux pièces cuisine au parvis d'une cité et d'une famille monoparentale à tous les habitants du quartier, expliquent les réalisateurs. Donc c'est une hymne aussi à la révolte et l'anarchie. Donc Chiara Malta et Sébastien Lodenbach décrivent Linda veut du poulet comme une hymne à la liberté, à la révolte, au désordre, voire à l'anarchie. C'est un film qui disjoncte avec un sens aigu de l'absurde et du burlesque, empruntant des sentiers multiples, passant du sérieux au merveilleux, avec un humour parfois teinté de mélancolie pour parler de cette enfance enfouie en chacun de nous. Un film qui ne reste jamais vraiment au même endroit, mais comme s'il avait la bougeotte, comme un enfant turbulent de ceux qu'on met au coin parce qu'ils dérangent la classe. Alors, c'était fait évidemment par un duo de réalisateurs. Donc, le film est réalisé par Chiara Malta, dont c'est le premier long métrage d'animation, et Sébastien Lodenbach, à qui l'on doit La jeune fille sans main. Ce dernier a pris en charge l'animation à partir d'orientations de découpage prises en commun, tandis que sa comparse donc, s'est occupée, outre des orientations globales de mise en scène, de tout ce qui concerne le son, dont l'enregistrement des dialogues. Ensemble, ils ont réalisé le montage, l'enregistrement, des bruitages et du mixage, et superviser le suivi artistique des chansons. Beaucoup, beaucoup de travail pour en arriver là. Mais je trouve que c'est chouette, moi, de conjuguer les efforts, de s'allier et justement d'avoir plusieurs têtes pour penser et puis pour élaborer, on va dire, ce petit long métrage. Donc, je vous propose de venir voir donc, à la brèche. Alors, il y aura une animation. Alors, il faut savoir une chose, que j'ai ma collègue d'Arte qui est médiatrice culturelle, qui vient régulièrement donc, faire des animations. Essentiellement le mercredi à la brèche. Donc c'est des opérations qui marchent bien, hein, avec souvent un goûter à la clé. Donc il y a des jeux, des fois des choses à gagner. Donc là, le mercredi 25 octobre, on aura notamment deux rendez-vous, mais notamment celui-ci, donc autour de Linda veut du poulet. Donc le film sera suivi d'une animation avec un escape game autour du film. Donc le principe, donc, c'est vous êtes des poulets et vous ne voulez pas passer à la casserole. Normal. Donc pour échapper à ce triste sort, une seule solution, vous devez résoudre les 5 énigmes afin de pouvoir retourner à la ferme. Pour cela, vous ferez équipe et réfléchirez ensemble. Y parviendrez-vous ? Point d'interrogation. Et un goûter sera offert après le jeu pour récompenser les participants. Voilà, je trouve ça vraiment, vraiment chouette, surtout en pleine vacances.
Je m'adresse à participer un petit peu. Ouais, les jeunes, les familles peuvent venir.
Exactement, exactement. Donc, je trouve ça très, très bien de prolonger une projection avec ces animations-là. Voilà, il y en aura de plus en plus. Et c'est une très bonne initiative. Et je trouve ça vraiment chouette. En plus, elle est super sympa, ma collègue.
Nous l'avions rencontrée.
Tu l'as rencontrée, Marjorie ?
Oui, elle est super.
Elle est vraiment super.
Effectivement, elle était venue une fois pour présenter quelques rendez-vous à la brèche. Alors, durant ce rendez-vous du mercredi 25 octobre, on aura aussi un autre rendez-vous. Les tout rouges et les tout bleus.
Les tout bleus.
Voilà, c'est en fait un combo de 4 courts-métrages, ouais. Je crois, hein, c'est ça ?
Voilà. Voilà, j'ai sur ma fiche, exactement. Donc, les tout rouges et les tout bleus. Donc, ça, là, c'est un film d'animation anglais hein, de 38 minutes. Hein. Donc, un film d'animation famille à partir de 3 ans. Ça, c'est un peu pour les plus petits. Hein. Mm-hmm. Donc, de Samantha Cutler et Daniel Snedden. Donc, un programme de 4 courts-métrages haut en couleur pour triompher des différences. Sur une lointaine planète vivaient Édouard et Jeannette, un tout bleu et une tout rouge. Par un beau matin, ces deux-là tombèrent amoureux. Malheureusement pour eux, les tout rouges et les tout bleus ne se mélangent pas. Et bien plus encore, ils se détestent. Par les créateurs du Gruffalo et de Super Astico, et d'après le livre illustré de Julia Donaldson et Axel Schleffer, voilà, des personnages donc, qui sont déjà sur le monde des livres et qui sont donc, on va dire, remis au goût du jour à l'écran. Les tout bleus, un film sur la tolérance, un film sur l'acceptation, tout ça, un film sur l'amitié aussi. Donc voilà, avec une belle morale derrière. Quoi. Donc ça sera présenté à la brèche donc, cette semaine, donc à partir de 3 ans.
Voilà, et je crois qu'à l'issue, 15h45, toujours le mercredi 25 octobre, hein, on va bousculer un petit peu le planning, puisqu'à l'issue du premier rendez-vous, un petit peu avant, à 14h, il y aura des animations, on en parlait il y a quelques instants, mais il y aura un ciné-goûter avec des ateliers aussi.
Exactement, donc toujours le même jour, donc le mercredi 25 octobre, là ça sera à 15h45, c'est juste après Linda veut du poulet. Hein. Il y aura un ciné-goûter et atelier. Le film sera suivi d'un goûter offert et d'ateliers au choix, comme la fabrication de masques de tout rouge et de tout bleu, du coloriage ou de petits jeux autour donc de rimes dans le film. Et le livre d'Axel Scheffler et Julia Donaldson dont le film est adapté. Voilà, un deuxième atelier qui aura lieu donc le même jour à la brèche, donc un mercredi chargé en animation, et c'est très bien.
Voilà, c'est les vacances, on a du temps, on en profite pour se faire plaisir en famille. On va enchaîner avec un autre rendez-vous cette semaine, tu en parlais dans le sommaire de l'émission, dans cette 82e émission d'Entracte sur Radio Grand Air, c'est notamment Le Garçon et le Héron.
Et oui, c'est la dernière création de ce grand réalisateur japonais qui est Hayao Miyazaki. Donc c'est un film d'animation de 2h04, hein, c'est un drame-aventure. Hein. Donc après la disparition de sa mère dans un incendie, Maito, un jeune garçon de 11 ans, doit quitter Tokyo pour partir vivre à la campagne dans le village où sa mère a grandi. Il s'installe avec son père dans un vieux manoir situé sur une immense, sur un immense domaine où il rencontre un héron cendré qui devient petit à petit son guide et l'aide au fil de ses découvertes et questionnements à comprendre le monde qui l'entoure et percer les mystères de la vie. Voilà un gros gros programme. Donc le dernier film de Hayao Miyazaki, désormais baptisé The Boy and the Heron, en prévision de sa sortie américaine qui vient d'être annoncée, a fait ses débuts en salle au Japon vendredi et les premiers spectateurs ne tarissent pas d'éloges à son sujet. Le film est décrit comme une expérience d'une beauté visuelle vraiment stupéfiante, faisant passer donc des messages philosophiques et profonds. Et c'est vrai que c'est bien tout l'art de Miyazaki, hein, d'allier, on va dire, l'animation et justement les messages d'ailleurs qui passent derrière. Hein. Mm-hmm. Le long métrage que l'on appelait jusque-là « Comment vivez-vous ?» et dont on ne savait rien d'autre, a fait sensation. La décision du studio de ne faire aucune promotion pour le film, donc aucune promotion, hein, a maintenu les fans dans un état de curiosité aiguisée. Donc Ghibli, qui sont les studios de production, avait uniquement partagé que le film était très vaguement inspiré du livre philosophique pour enfants de 1937 de Genzaburo Yoshino, qui s'intitule « Et vous, comment vivrez-vous ?» l'un des favoris personnels de Miyazaki. Côté box-office, donc, il semblerait que les premiers chiffres soient plutôt bons si l'on en croit les quelques sources ayant publié à ce sujet. Selon Anime News Studio and Facts, le film aurait remporté déjà 465 millions de yens. Là, il n'est plus dans les dollars. Ce qui nous fait 3,3 millions de dollars. Donc, lors de son premier jour d'exploitation. Ce qui est énorme, hein, entre parenthèses. Ça veut dire que beaucoup, beaucoup de gens se sont pressés dans les salles. Donc, d'autres parlent d'une estimation à 11,3 millions pour ce week-end d'ouverture. Ce qui serait le troisième plus grand week-end d'ouverture de 3 jours de 2023 et le deuxième plus grand jamais réalisé par Ghibli. Tout cela reste toutefois à confirmer. Mais moi, je m'inquiète pas, moi, pour Miyazaki. Son film va fonctionner. Ça, oui. C'est sûr et certain. Mm-hmm. Donc c'est une œuvre d'art distincte. Avant même que les premiers avis ne tombent, après la première du film, Hayao Miyazaki a lui-même commenté via The Hollywood Reporter. Et il nous dit « Vous n'avez probablement rien compris ». J'ai eu du mal à comprendre parfois. Certains l'ont en effet qualifié de bizarre, de trop mystique, ou ont tout simplement avoué ne pas l'avoir compris. Les réactions sont toutefois majoritairement dithyrambiques. Alors, pour Anime Network, News Network, chaque image de ce film ressemble à une œuvre d'art distincte. C'est un film que vous pourriez regarder 100 fois et découvrir encore des nouvelles choses en arrière-plan d'une scène donnée. Et oui, c'est bien là tout l'art, justement, de ce grand réalisateur. C'est un tour de force d'animation qui ne ressemble à rien de ce qui s'est passé au cours de la dernière décennie. C'est pour vous dire un petit peu si c'est un événement quand même. Le magazine japonais de cinéma et de culture, Cinéma Plus, a également décrit le film comme un point culminant pour Miyazaki, s'inspirant de motifs et de personnages de sa filmographie, mais en les incorporant dans une histoire un peu plus sombre, plus stimulante et plus personnelle que beaucoup de ses travaux. Tous s'accordent à dire que plusieurs visionnages sont nécessaires pour comprendre l'œuvre dans son ensemble, et ça, je veux bien le croire. Parce qu'effectivement, dans les films de Miyazaki, souvent, c'est des lectures à plusieurs degrés. Tu vois, tu as le degré premier, évidemment, où tu as les personnages, tout ça. Puis derrière, il y a toute la réflexion profonde qu'il y a derrière, quoi. Moi, je sais pas, je me souviens un jour d'avoir vu Le Vent se lève, par exemple. Bon, mais Le Vent se lève, tu vois les B-52 américains au-dessus du Japon, quoi. Donc, c'est du vécu. Mm-hmm. Tout ça, c'est du vécu de Miyazaki. Tu vois, il incorpore un petit peu c'est l'histoire du Japon, son vécu personnel, un peu du mystique, un peu de magie, et tout ça, ça forme un espèce de tourbillon qui fait que sa création elle est d'une richesse infinie. Mais ce qui est super aussi chez Miyazaki, ce sont des peintures vivantes, ces images. Et des fois, franchement, tu vois juste le vent qui souffle dans la nature, tu vois tout qui s'illumine, qui bouge, les lumières, en plus, et les couleurs surtout, qui n'ont rien à voir avec un rendu photographique. Tu vois, tu peux avoir des arbres bleus, plein de couleurs différentes qui s'accordent en plus entre elles, hein, qui font que c'est merveilleux. C'est merveilleux, ça peut durer même 10-20 secondes la scène, tu hallucines complet, quoi. C'est quelque chose que tu apprécies énormément. Donc si tu mêles à ça, on va dire, une histoire et surtout une philosophie derrière, ça donne une grande œuvre. Une grande œuvre. Et sa vie, d'ailleurs, est une œuvre, Hayao Miyazaki. Voilà pourquoi je l'ai choisi comme personnage de la semaine, juste pour vous éclairer un petit peu sur ce personnage-là et sa carrière. Donc voilà, à cause de tout ceci, et oui, je vous invite vivement à venir découvrir ce film-là, À la brèche, Le garçon et le héros.
Voilà, donc on l'aura aussi en version originale sous-titrée.
Ah, il sera en VO, bien sûr. Ah, oui, oui. Ça, c'est, mais ça, c'est pour les affiches Unados, bien sûr. À Miyazaki.
Voilà, donc accessible souvent. À partir de 10 ans. Donc,
oui, oui. Enfin, oui, à partir de 10 ans. Ouais. Ouais. Alors pour le tout petit, évidemment, c'est quand même mieux d'avoir la VF. Hein.
Ouais.
Mais après, pour ceux qui sont vraiment des dévoreurs de manga, ceux qui adorent ça, évidemment,
nous avons un fan club.
Oui, 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 il faut le voir, en japonais. Alors, moi, je sais que déjà, j'ai eu plusieurs coups de fil au ciné. Pour déjà réserver l'affiche qui est super.
Ah bah, bon, ah oui, c'est
oui,
vrai.
Bah, oui, ouais, oui, t'imagines bien. Donc voilà, donc puis les gens me posent des questions. Et déjà, ça fait un petit bout de temps que les gens me demandent oui, quand est-ce que vous le sortez, tout ça. Ça y est, il est là. Mm-hmm. Il est là, je vous rassure, on va le passer. Et à mon avis, ça va être un véritable enchantement. Et je pense qu'il a raison, Miyazaki, ou même les autres qui critiquent le film en disant il faut venir le voir plusieurs fois. Mm-hmm. Parce que je pense qu'il y a. Il y a plusieurs dimensions, il y a plusieurs, on va dire, degrés de réflexion, on va dire, dans ses œuvres. Et je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Quoi. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Moi, ça me fait penser un petit peu au cinéma de David Lynch. Mm-hmm. Au cinéma de David Lynch, des fois, tu as des scènes dans les films. Alors évidemment, ce n'est pas des films d'animation, mais tu as des scènes de films que tu trouves super étranges. Tu te demandes qu'est-ce que ça fout là, des personnages qui sortent de nulle part. Mais il y a toujours une raison. Mais tu vas peut-être les comprendre en regardant l'œuvre plusieurs fois. Tu vois, je pense à Twin Peaks, je pense à ces films-là, tu vois. Et voilà pourquoi ce sont des cinémas qui sont riches, je trouve. Alors évidemment, il faut se creuser un petit peu la cervelle, mais sinon après tu peux prendre les films d'une manière assez lisse, c'est-à-dire vraiment au premier degré, et puis tu vas quand même l'apprécier aussi. Mais il y a une grosse réflexion derrière. Et ça, j'aime bien ce genre de cinéma. Justement. Qui fait réfléchir, quoi. Je trouve que c'est enrichissant de se plonger un petit peu dans l'œuvre de ces réalisateurs-là, quoi. C'est assez exceptionnel, je dirais.
Soyez curieux, poussez les portes du cinéma à la brèche pour voir les œuvres.
Ah oui, oui, venez les découvrir, bien sûr.
Cet excellent réalisateur qu'on va découvrir aussi en personnage dans quelques instants. Alors sur Radio Grand Air, cette semaine, nous avons aussi un autre rendez-vous. Cette fois-ci, on va parler d'un rendez-vous qui est Made in France avec second tour. Donc le second tour, on pense de suite à peut-être une aventure politique.
C'est une aventure politique, oui.
Découvrir à travers un personnage.
Ouais. Alors moi je suis un peu chagriné. Alors on va parler évidemment du film d'Albert Dupontel. Alors moi je suis un peu chagriné parce que je n'ai pas trouvé de doc là-dessus.
Oui.
Tu vois, j'aime bien des fois trouver des docs où vraiment tu as le réalisateur qui s'ouvre un petit peu au journaliste et il veut dire qui fait part un petit peu de sa pensée profonde, on va dire, sur son travail, quoi. Je sais qu'Albert Dupontel, c'est quelqu'un qui c'est un excellent réalisateur, mais c'est quelqu'un aussi qui est très discret.
Oui.
Qui est vraiment, vraiment très discret. Alors je sais qu'il est venu sur le réseau Artec, il est venu aussi à Saint-André de Cubzac présenter son film, ouais.
Très bien.
Et il est venu aussi. Donc à Saint-Médard-en-Jalles, la salle était pleine. 600 personnes. Pour te dire, 600 personnes pour venir le voir, venir l'écouter, lui poser quelques questions quand même. Et voilà, non, il déplace les foules, Albert Dupontel. Hein. Mais voilà, mais j'ai pas trouvé d'articles de journaux. Et ça m'a rendu un peu triste, mais quelque part, je suis pas surpris qu'ils se mettent pas forcément en retrait. Je l'ai vu évidemment le présenter son film à la télé, entre parenthèses, mais voilà, donc je pourrais pas en parler plus que ça, quoi, de son film. Dans tous les cas, qu'a-t-il réalisé Albert Dupontel? Donc c'est une comédie dramatique d'une heure 37, hein. On va dire en 2012, 9 mois ferme,
oui,
avec Sandrine Kiberlain et Nicolas Marié qui fait partie de beaucoup de ses films, entre parenthèses. 2017, Au revoir là-haut, grand film tiré d'un livre absolument fabuleux avec Nawel Pérez Biscaillard et Laurent Lafitte. En 2020, Adieu les cons.
Ah oui,
Adieu les cons, avec
excellent.
Virginie Efira et Nicolas Marié.
Excellent.
Voilà, que beaucoup de gens sont venus voir. Donc au niveau des acteurs, on va retrouver Cécile de France, Albert Dupontel, Nicolas Marié, Yuri Gabriel, Philippe Huchan, Catherine Schwab-Abkarian, Gilles Gaston-Dreyfus et Cilly Delpera. Donc c'est l'histoire d'un journaliste politique en disgrâce qui est placé à la rubrique football. Cette demoiselle est sollicitée pour suivre l'entre-deux tours de la campagne présidentielle. Le favori est Pierre-Henri Mercier, héritier d'une puissante famille française et novice en politique. Troublée par ce candidat qu'elle a connu, donc Mademoiselle Pauvre dans la journaliste, donc se lance dans une enquête aussi étonnante que jubilatoire. Là, je pense que le monde politique va en prendre pour son grade, évidemment, avec le dessous, tu sais, les dessous des campagnes présidentielles. Et Dieu sait si ça a fait, pour certaines, la une des journaux. Hein. C'est toujours, on va dire, des sujets chauds, hein, parce qu'à chaque fois, tu as certains qui sont poursuivis, c'est pour les financements de campagne. Il y a des procès qui sont en cours actuellement.
C'est vrai qu'on a eu pas mal de films, justement, sur l'envers de la politique. Ouais. Je pense à un vieux film qui est d'ailleurs qui a été diffusé, je pense qu'il y a quelques jours à la télévision, Adieu Poulet. Oui. C'était l'histoire de deux policiers qui étaient un petit peu, on va dire, intimidés par un futur député ou un député qui devait se représenter. Et la politique s'en mêlait sur une affaire de meurtre. Très bon film. Avec, je crois, Patrick Devers. Et à ses côtés, il y avait notamment... alors, je ne sais pas si c'était Lino Ventura qui était son coéquipier. Ouais. Voilà, donc un très, très bon film, un vieux film qui est ressorti. Adieu Poulet.
Ça me dit quelque chose. Je crois que je l'ai vu, celui-ci.
Ah oui.
Je l'ai vu, oui. Ouais. Mais il y a aussi autre chose que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, là, qui traîne sur... je crois que c'est un reportage d'Arte. Ouais, c'est ça. Ah non, c'est pas un reportage Arte, c'est un documentaire de Laurent Delahousse sur qui s'appelle Chirac, l'homme qui ne voulait pas être président.
Ah ouais.
Alors, je l'ai regardé. Mm-hmm. Je l'ai regardé parce que c'était vraiment intéressant. Et là, c'est là qu'on voit un petit peu le dessous, on va dire, des campagnes présidentielles. Alors évidemment, tu as toute la carrière de Jacques Chirac, hein, qui est un drôle de personnage, entre parenthèses. Mm-hmm. Et bah, évidemment, lui aussi, il s'est fait accrocher. Il y a eu des casseroles, les emplois fictifs de la mairie de Paris, et ainsi de suite.
Ouais, c'est vrai.
Mais aussi ses déboires avec Sarkozy, tout ça. Et c'est là que tu te rends compte un petit peu, on va dire, des dessous, on va dire, de l'Élysée, les luttes de pouvoir, tout ça. Enfin, c'est vraiment, vraiment intéressant à regarder un petit peu comment se comporte ce monde-là, un petit peu dans l'ombre, un petit peu. Parce que nous, on les voit à l'Élysée, derrière leur bureau, mais derrière, il se passe bien des choses. Donc je trouvais vraiment, si vous avez l'occasion de le voir, voilà, c'est un documentaire donc, ouais, de Laurent Delahousse, c'est ça. Donc Chirac, l'homme qui ne voulait pas être président, c'est très, très intéressant. On apprend plein de choses, même si vous n'êtes pas fan de Chirac ou politise ailleurs, je ne sais, c'est pas politique, on va dire. Mmh. C'est très intéressant, quoi. Donc je vous le recommande vraiment, quoi. Dans tous les cas, revenons à nos moutons. Donc second tour, donc,
oui.
Albert Dupontel.
Nous là,
ça sommes. Ça va récurer bien plus que le documentaire de Laurent Delahousse. Et je trouve ça très bien. Je trouve que le sujet, c'est un très bon sujet. Donc à découvrir à la Brèche cette semaine.
Voilà, on va justement écouter un extrait de la bande-annonce et on se retrouve juste après.
Les feux maçonnés. Allô ?
Vous avez deviné pourquoi je vous ai fait venir ? Vous allez reprendre cette campagne ?
Je fais le foot maintenant.
Vous faites le foot parce que vous avez déconné avec la politique.
Je vous demande de faire un triomphe à notre futur président !
Ta gueule, sale connard, bouffe ta merde.
Pardon ?
Non, je parlais à Gus.
Maintenant que vous n'êtes plus au foot, tâchez de garder ce langage pour vous.
Fierté. Qu'est-ce qu'il motive, ce connard ?
Le candidat, il parle beaucoup avec son garde du corps. Là, il dit fils de pute en roumain.
Il dit fils de pute en roumain ?
Ouais. Grâce au foot, tu es très fort en labial. Ça, en italien, ça va te faire enculer.
Pourquoi, même pas encore élu, le candidat nous cache déjà quelque chose ?
Je vais pas faire ce que les gens qui financent ma campagne ont prévu. Et pourquoi ? Si je le fais, ça va tout casser encore plus. L'air, l'eau, le sol, ils sont trop forts, trop puissants. Ils me lâcheront plus même quand je serai élu.
On t'avait filmé ?
Non.
Si on vous dit, enfin, il se passe quelque chose dans cette campagne soporifique, que répondez-vous ?
C'était dans tes questions, ça ?
Non, mais les prévus ont déjà tout été posés.
Je crois qu'on va retourner au foot, nous, hein ?
Voilà, second tour, je crois que ça va déménager.
Ah oui,
ça sera
sûr.
Très intéressant de voir un petit peu l'envers du décor.
Et oui,
les intimidations.
Exactement, parce que derrière les élections, on va dire, présidentielles, il y a toujours derrière des gens qui poussent, des gens qui ont des intérêts à ce que cet homme-là soit élu. C'est vieux comme le monde, entre parenthèses. Je dirais même que c'est vieux comme la Rome antique. Hein. Donc... C'est, voilà, c'est, et abordé par Albert Dupontel, je pense que ça va être assez croustillant.
Je pense. Ces personnages hein, qu'il a joué dans différents films. Albert Dupontel, c'est un acteur qui s'adapte, en fait. On peut tout lui mettre hein, dans les rôles. Des rôles à la fois déjantés, on va dire décalés, ou des rôles assez, assez dramatiques aussi.
Bien sûr, il est capable de jouer bien des rôles, mais ce qui est marrant chez lui, c'est que tu vois, il est à la base de ses projets. C'est-à-dire qu'en fait, non seulement il est acteur, mais c'est aussi lui qui est aussi derrière la caméra.
Exactement.
Il fait les deux en même temps. Hein.
Et comme tu dis, c'est un acteur, un réalisateur discret.
Oui.
Donc on a du mal à.
Mais t'as du mal à cerner, parce que déjà, ouais, c'est quelqu'un qui est très discret. Alors je dirais pas timide, c'est pas le mot, mais c'est quelqu'un qui aime pas se mettre devant.
Oui.
Qui supporte pas ça. D'ailleurs, si tu regardes un petit peu tout bien de ces personnages, tu vois, c'est des personnages toujours un petit peu, tu vois, un petit peu sur la retenue, un petit peu, voilà, c'est loin d'être des personnages exubérants. Ou alors, s'ils sont pas sur la retenue, c'est des personnages complètement délirants, tu vois. On est à la limite du burlesque, tout ça. Donc c'est ça.
Mais je me rappelle d'un film, Deux jours à tuer. C'était
dramatique.
Ah oui, dramatique.
Plus dramatique. Oui.
Oui, où il sabre sa vie en fait. Hein, ouais, parce qu'il est condamné, mais personne ne le sait.
Ouais.
Et c'est assez dur parce qu'on a le dénouement en fin de film, mais il joue un rôle extraordinaire.
Non, il est extra. Moi, j'adore le passage où il part en Irlande rejoindre, trouver son père qui a été pêché le saumon.
Et c'est ça, exactement.
Et le rapport est vachement difficile avec son père. Il est très, très particulier. Il est là pour lui annoncer. Et son père est. Tu vois qu'il est un petit peu à côté de la plaque, il ne comprend pas. Voilà, ce sont des rapports vraiment très, très difficiles entre père et fils. Quoi, Non, c'est un très grand réalisateur, Albert Dupontel. Moi, j'adore beaucoup son cinéma. Même si des fois, c'est, il a commencé. C'est vrai d'abord, c'est un homme de one-man show au début. Il a commencé un petit peu. Des one-man shows qui sont très, très bien, hein, qui sont encore disponibles. Si vous allez sur YouTube, vous allez voir un petit peu le personnage. Quoi. Et voilà, c'est quelqu'un qui adore écrire, qui adore réaliser. Et voilà, il a toute mon admiration. Et ses films ne sont jamais désertés, entre parenthèses.
Hein. Ah
oui, les gens se penchent un petit peu dessus parce que c'est du non-conventionnel. Et ça qui est bien, on en a besoin, des gens comme ça, qui sont non-conventionnels, qui sortent un petit peu des sentiers battus. Quoi. Et je le remercie.
Voilà, second tour avec le retour d'eux et avec Albert Dupontel avec ses côtés. Et bien sûr, la séduisante Cécile de France. On va retrouver un autre rendez-vous à la brèche cette semaine, le ravissement. Alors, qu'est-ce que c'est que le ravissement, Pascal ?
Eh bien, tu vas voir. Le ravissement, donc, c'est un film français d'une heure 37, c'est un drame hein, de Iris Kaltenbach. Alors, ce film a reçu un prix, le prix de la Semaine internationale de la critique. Donc, au niveau des acteurs, on va retrouver Afissa Erzé, Alexis Manouti, Nina Morris, Younes Boussif, Ramila Karabatic, Anna Belgoyaric, j'espère que je les écorche pas, Grégoire Didelot et Mathieu Perotto. Alors, comment la vie de Lydia, sage-femme très investie dans son travail, a-t-elle déraillé ? Est-ce sa rupture amoureuse, la grossesse de sa meilleure amie, Salomé, ou la rencontre de Milos ? Un possible nouvel amour, point d'interrogation. Lydia s'enferme dans une spirale de mensonges et leur vie à tous bascule. Voilà un sujet intéressant. Donc, lorsqu'Iris Kaltenbach préparait un court-métrage, Le vol des cigognes, la cinéaste est tombée sur un fait divers raconté en deux phrases dans les journaux. Une jeune femme emprunte l'enfant de sa meilleure amie et fait croire à un homme qu'elle en est la mère. Elle se rappelle, est alors née dans mon esprit l'idée de raconter le bouleversement d'une amitié et la naissance d'une histoire d'amour autour d'un même mensonge. J'ai tiré de mes expériences passées dans les tribunaux la conviction qu'un fait divers raconte souvent les tiraillements d'une société à une époque donnée. On y retrouve à une échelle intime de grandes questions politiques. Donc ce qui a interpellé un petit peu Iris Kaltenbach dans ce fait divers est l'amitié que l'on devine entre ces deux femmes. Et comme elle nous dit, j'ai moi-même vécu ce décalage étrange quand une amie très proche est devenue mère à un moment où je ne me sentais moi-même pas concernée par cela. On parle beaucoup de ce que provoque l'arrivée d'un enfant dans un couple, mais moins de ce que ça déclenche dans une amitié. L'autre question que soulevait ce fait divers, c'est la place des faux-semblants dans la naissance d'un amour, d'une histoire d'amour. Même si dans cette histoire le mensonge est énorme, j'avais le sentiment qu'elle pouvait parler à beaucoup de gens. On a presque tous un jour travesti la réalité pour plaire ou pour correspondre à une image qu'on croit plus désirable de nous-mêmes, se souvient la cinéaste. Donc la thématique donc de la maternité traversait aussi le court-métrage « Le vol des cigognes » de Iris Kaltenbach. Cette dernière a toujours été touchée par les histoires de maternité contrariées ou déplacées, qu'il s'agisse d'une femme qui devient mère et qui ne ressent pas les sentiments auxquels on s'attend communément, ou d'une femme qui ne l'est pas et qui développe des sentiments et un comportement qu'on prêterait d'habitude à une mère et s'y épanouit. Donc ce fait divers me semblait interroger notre conception de la maternité et la manière dont la mythologie l'a façonnée au fil de l'histoire. Ça m'a fait penser au jugement de Salomon, mais aussi à l'histoire donc de la Vierge Marie, précise la réalisatrice. Donc Iris Kaltenbach voulait que la voix off se rapproche de sa démarche en tant que cinéaste, qui est une interrogation sur le personnage de Lydia. Donc elle nous dit, c'est un récit qui pose des questions sans forcément donner les réponses. J'avais le choix entre la meilleure amie et l'amoureux. Il y a souvent dans les faits divers de ce genre des hommes dupés dont on se demande comment ils ont pu ne pas voir. Et ceux qu'ils ont choisi donc de ne pas voir. Je trouvais intéressant que Milos, qui pourrait être vu comme la victime, interroge sa place de complice inconscient dans cette histoire, nous confie-t-elle. Donc ce film également a été aussi donc présenté à la semaine de la critique au Festival de Cannes en 2023, hein, où il a obtenu le prix. Donc voilà, un film sur la maternité et son travestissement.
Voilà, éventuel. Vous avez tout compris. Ou presque, en tout cas. Et oui, effectivement, donc le ravissement, c'est à voir cette semaine à La Brèche, 1h37, hein, pour découvrir cette production. C'est intéressant comme sujet, en tout cas, et ça sera aussi l'occasion de découvrir d'autres facettes, en tout cas, du cinéma.
Absolument. Et à découvrir un petit peu ce monde de la maternité. Que cela peut-il provoquer, on va dire, comme elle nous dit, au sein du couple ou quand il est travesti, on va dire. Donc, ouais. Voilà, une réflexion donc, à découvrir donc, à La Brèche, donc le ravissement.
On va enchaîner avec le sixième rendez-vous de cette semaine, Pascal. Last Country, c'est un film... dramatique, quelque sorte. Hein.
Alors, tu vois, c'est un film de France, Serbie, Croatie, Luxembourg.
Oui.
D'1h38, c'est un drame hein, de Vladimir Perici. Ce film a reçu un prix, le prix de la Fondation Louis Roder, de la Révélation. Donc, on nous aura une soirée autour de ce film-là. On recevra donc
avec le réalisateur.
Le réalisateur, exactement, le samedi 28 octobre. À 18h. Donc on recevra donc Vladimir Perici. Donc au niveau des acteurs, on retrouvera donc Jovan Gini, Jasna Djuricic, Mio Drag, Javonovic, j'espère que je vais pas les écorcher parce que cela c'est spécial. Donc Lazar Kovic, Pavel Komerivic, Boris Izakovic, Dusko Valentic et Elena Buljan. Nous sommes en Serbie. En 1996, dans le feu des manifestations étudiantes contre le régime de Milosevic. Mmh. Déchiré entre ses convictions et l'amour qu'il porte à sa mère, porte-parole du gouvernement, Stéphane, 15 ans, mène sa propre révolution. Donc, après la mise en scène d'un segment pour le film collectif Les Ponts de Sarajevo en 2014, donc, Vladimir Perisic a attendu pas loin de 10 ans pour passer à nouveau derrière la caméra et réaliser Lost Country. Et comme il nous dit, j'avais aussi besoin d'un certain temps pour pouvoir aborder ce sujet, ce rapport avec ma mère qui a participé à la politique du régime de Slobodan Milosevic. Elle n'était pas porte-parole comme la mère de Lost Country, mais travaillait à la culture. Traiter de front d'où vient cette blessure demandait une maturité pour pouvoir être racontée, se rappelle le cinéaste. Il poursuit. Quand je suis arrivé en France pour mes études à la FEMIS, j'ai lu un entrefilé dans Libération sur le suicide de la fille de Mladic. En Serbie, c'était tenu comme secret. C'était en 1994, un an avant Srebrenica. Et oui, les massacres,
oui.
Absolument horribles. Mmh. Elle avait dû deviner, pressentir ce qui allait se passer. Cela m'avait interpellé parce que je ne connaissais dans son destin. Je me reconnaissais dans son destin. L'idée de mon court-métrage de fin d'études, donc qui s'intitule Dremano Oko, est venue de là. Mais c'était plus facile de la traiter sur le rapport père-fils parce que la révolte contre le père est un passage obligé. Quand j'ai fini ce film, je savais que je n'étais pas allé jusqu'au bout. Je pensais qu'il fallait faire Ordinary People pour se confronté aux crimes de guerre et qu'ensuite viendrait le temps de raconter plus personnellement mon histoire. Donc, Vladimir Perisic donc, explique comment il est parti de cette part autobiographique pour construire un film de fiction. Il y a la part personnelle de ma co-scénariste Alice Vinocourt qui m'a énormément aidé à sortir du traumatisme qui empêche la construction du sens. Elle m'a aidé à construire un récit qui m'éloigne de mon histoire personnelle comme ce qu'elle a pu faire avec son film, donc Au revoir Paris. Je ne sais pas si seul j'aurais pu y arriver. C'est bizarre, on finit par aimer nos blessures et à cultiver le traumatisme. Ce qui m'intéressait aussi, c'est qu'il y a très peu de personnages féminins qui font la politique. Donc dans le cinéma européen, à part chez Claude Chabrol. Et ça m'intéressait dans une Serbie qui est une société très patriarcale de faire le portrait d'une femme qui est dans la politique. Et aussi, ce qui était compliqué pour moi de grandir avec cette mère qui fait de la politique, c'était que les attaques contre elle venaient d'une logique très machiste et patriarcale. Je voulais faire le portrait d'une femme aliénée, car en un sens, elle est indépendante, mais elle n'est pas libre. Elle est la voix du parti, mais elle n'a pas sa propre voix. Donc Vladimir Perisic donc, a voulu rendre Lost Country actuel, parce que les jeunesses dans le monde continuent de se révolter, et il précise. Mais aussi filmer la politique comme un travail, il y a une sorte de sacralisation du pouvoir que de ne pas considérer la politique comme un métier. Et les instruments y sont les mêmes qu'au bureau. Le téléphone, la vitesse de l'information, les réunions, mais aussi les manipulations. Il y a cette expression serbe qu'on pourrait traduire par « faire tourner la soupe » pour détourner l'attention et le marketing en politique ne fait que ça. Ce sont des choses qui font que le film est actuel, mais ça se passe, pardon, dans les années 90. C'est dans l'école qui sert de décor au film qu'a eu lieu la fusillade du 4 mai 2023 en Serbie. Donc, on peut dire que c'est filmé in situ. Donc, Vladimir Perisic suivit ce même principe sur les manifestations. Le réalisateur n'aime pas les reconstitutions d'antiquaires dans les films historiques. Avec Lost Country, il a voulu faire un long métrage qui ne soit pas au passé, mais qui se passe ici et maintenant, comme les films de la Nouvelle Vague. Et il nous confie, on a très peu modifié les lieux. Les appartements, les rues et l'école sont restés les mêmes comme dans les années 80-90, ce qui permettait de faire une sorte de documentaire. Même le survêtement marqué Yougoslavia est un peu effacé que porte Stéphane au début du film. Je l'ai trouvé comme tel sur Internet. Pour les manifestations, je pense qu'on est vraiment arrivé à une atmosphère de révolte avec 200 ou 300 personnes, mais tout en restant dans l'intimité d'un drame. Lost Country est filmé à partir de mes souvenirs, mais aussi avec la jeunesse d'aujourd'hui pour ces scènes. Il y avait des anarchistes ou des membres de la Ligue de la jeunesse communiste yougoslave et je leur ai demandé de refaire le siège de la faculté de mathématiques de Belgrade. Voilà. Un film vraiment, un gros travail, un film politique.
Un gros sujet, ouais.
Un gros sujet, évidemment, qui a marqué on va dire, l'actualité, qui a marqué l'histoire.
Ouais, l'histoire.
Drame, ouais. Qui est l'histoire de la Yougoslavie.
Après la disparition de Tito, ça a été un déchirement avec, pareil, c'est certains pays qui voulaient rejoindre l'Europe. Et avant de rejoindre l'Europe, se sont déchirés, une sorte de guerre de religion.
Exactement. Mm-hmm. Voilà, un film lourd de sens, lourd d'histoire.
Très intéressant pour,
absolument, oui.
Pour peaufiner son histoire et en savoir un petit peu plus aussi sur, bah oui, comme tu disais, sur cette ex-Yougoslavie déchirée.
Oui, qui a fait tant couler d'encre. Hein, et puis, je dis, en plus, les Balkans ont toujours été.
Et c'est pas si vieux que ça.
Une zone de scission. Ça commence déjà dès le début du XXe siècle. Hein. Mmh. C'est quand même assez compliqué, cette espèce d'empire ottoman, on va dire, qui va heurter un petit peu le monde catholique et sur lequel on a fait des frontières sans trop réfléchir à l'après, quoi. C'est hélas.
Donc soyez curieux, en version originale sous-titrée, Lost Country, un très très bon rendez-vous voilà, historique, dramatique à la fois.
À découvrir à la brèche.
Alors on va parler dans notre rendez-vous, Pascal, est-ce que tu as choisi de nous parler de terreur? Est-ce que tu vas nous parler de personnages?
C'est vrai, j'oublie.
Non, mais je ne sais plus, je ne sais plus.
Oui, effectivement.
C'est vrai.
C'est vrai, parce que le 31, c'est Halloween.
Oui, alors il y aura une soirée donc le mardi. 31 octobre à La Brèche, il y aura la soirée donc Halloween. Après donc avec le film donc de l'exorciste Dévotion. Donc c'est un film d'univers 51. Alors tout de suite je préfère vous prévenir, ça sera interdit au moins de 12 ans. Donc c'est un film de David Gordon Green avec Leslie Holden Jr. et Eileen Burstyn. Donc mardi 31 octobre à 20h30, soirée spéciale Halloween avec après la projection. Donc il y aura participé à un jeu quiz sur le thème des trucs qui font peur et donc repartir avec des cadeaux.
Et des bonbons.
Excellent, j'adore. Donc alors les tarifs sont pas très chers. Hein. Donc les tarifs seront à 5,80€ si vous avez plus de 16 ans et 4,50€ si vous avez entre 12 donc, et 16 ans. Donc voilà, mais toujours quand même interdit au moins de 12 ans.
Voilà, c'est donc, oui, on le rappelle. Hein,
oui, parce que c'est quand même l'exorciste. Moi, bon, je pense qu'il est revisité.
Moi, j'ai vu des extraits.
Oui, moi aussi.
Ça nettoie.
Ça déménage pas mal. Hein, voilà, donc. Voilà, donc pour ceux qui aiment bien se faire peur, donc soirée, donc Halloween, donc à la brèche, donc le mardi 31 octobre. À
20h30, nous vous attendons nombreux. Excellent.
Voilà, c'est Halloween.
C'est Halloween, ouais, on se met dans l'ambiance.
Exactement.
Et elle est bien la nouvelle table de mixage.
Ah, c'est cool. On se régale. Hein,
on se régale depuis tout à l'heure. Ouais. Voilà. On a fait plein d'essais avant l'émission.
On peut faire la voix du robot, on peut faire plein de choses.
Absolument, hein. Ouais, on peut moduler plein de voix. Ouais, je trouve ça vraiment chouette.
Voilà, alors nous allons enchaîner avec le personnage de la semaine, mon cher Pascal.
On va parler de cet immense réalisateur,
ouais,
qui est Hayao Miyazaki. Alors, il n'est pas que réalisateur, il est scénariste, donc japonais. Il est né le 5 janvier 1941 à Tokyo. Et ça nous fait un jeune homme de 82 ans. Alors, autant vous dire que même s'il est né en 41, je pense que...
Ben oui, c'est ce que j'ai en train
de
penser.
Il a connu un petit peu les soubresauts, on va dire, de la guerre. Et même s'il a eu que 4 ans en 1945, je pense que ça a dû marquer parce que, oui, effectivement, il a dû entendre des vourbissements dans le ciel japonais, qui était couvert d'avions américains, évidemment. Ils étaient là pour donner le dernier coup de boutoir sur le Japon et ayant abandonné l'idée, on va dire, d'envahir le Japon parce qu'ils étaient déjà à Okinawa, hein. Et toutes les îles, on va dire, du Pacifique, eh bien, ils ont préféré envoyer la pire des saloperies qui a été donnée d'inventer par l'homme, la bombe atomique, d'ailleurs, qui a fait le sujet du film de Oppenheimer. Hein,
exactement.
Et voilà, donc, deux bombes sont tombées sur le Japon, c'était une horreur absolue. Et oui, c'est, je pense que ça a dû marquer. Hein. C'est pour ça que je te dis que dans le vent se lève, et même le tombeau des Lucioles aussi, hein, je pense qu'il y a une espèce de réminiscence, un petit peu de cette espèce d'écho du passé. Qui a trait à la Seconde Guerre mondiale, donc au Japon. Hayao Miyazaki, ses 53 années de carrière, 34 films, 3 séries, 26 nominations, 3 prix. Alors, en 2005, à la Mostra de Venise, il a eu le Lion d'Or d'honneur. En 2003, il a eu l'Oscar du meilleur film pour Le Voyage de Chihiro. Alors, celui-ci est rentré dans le cursus scolaire.
Oui.
En 2002, à la Berlinale, il a reçu l'Ours d'Or pour Le Voyage de Chihiro. Il a été vraiment récompensé, ce film-là. Alors, on va parler un petit peu de sa filmographie. Alors, évidemment, il n'y a pas les 34 films, mais on va dire il y a ceux qui ont le plus connu, on va dire. Alors, il a commencé en 1968, Hayao Miyazaki, avec Horus, Prince du Soleil. Alors, déjà, on était déjà dans le monde du manga. Hein. Mm-hmm. En 78. Il y a eu la série Conan, le fils du futur, saison 1, parce qu'il a fait des séries télévisées, il ne faut pas oublier. Alors, j'en parle pas souvent des séries télévisées, mais là, quand même, oui, parce que celle-ci était vraiment de qualité. Et la deuxième série, celle-ci, vous l'avez vue, je pense, en 1984, Sherlock Holmes, saison 1. Mais tu sais, Sherlock Holmes, c'était des chiens.
Ah oui,
tu t'en souviens de ça, quand même?
Exactement, ouais.
Mais c'est du Miyazaki.
D'accord.
Alors, souvent, on a tendance à l'oublier, mais c'est du Hayao Miyazaki. Et c'était plutôt bien ficelé. Mm-hmm. C'était très bien ficelé. Et c'était dans le Londres du 19e siècle, Sherlock Holmes. C'était chouette. Et donc, c'était joué, les personnages étaient joués par des animaux. Et c'est ce qui fait la spécificité aussi de Miyazaki. Il y a beaucoup d'animaux qui parlent, qui incarnent des personnages dans ses films. En 1984, Nausicaa de la Vallée du Vent. Pareil, celui-ci a très bien été, on va dire, fréquenté. En 88, Mon voisin Totoro. Pareil, un film qui a très bien fonctionné, ainsi qu'ils ont tous bien fonctionné. En 1989, Kiki, la petite sorcière. Alors, tous ces films-là, on les a passés à la brèche. Hein. Tous les Miyazaki, absolument tous, pratiquement tous. Alors, évidemment, pas forcément ceux de 68, hein, mais on les a pratiquement tous passés. En 92, voilà un film aussi qui est très très bon, Porco Rosso. L'histoire de ce cochon pilote.
Ah oui.
Et oui, oui. Mm-hmm. En 1997, Princesse Mononoke.
Ah oui. que vous aviez diffusé aussi sur...
Pareil, qu'on a diffusé maintes fois. En 2001, évidemment, le film qui a été récompensé, multi-récompensé, donc Le Voyage de Chihiro. En 2004, Le Château Ambulant. Pareil, un film complètement hallucinant, avec des décors, des concepts complètement fous. Hein. En 2008, pareil, un film qui est rentré aussi dans le cursus scolaire, Ponyo sur la falaise. Un film qui traite d'écologie, de la pollution, on va dire, des marines, tout ça. C'est très très bien fait. En 2013, évidemment, Le Vent se lève, dont je faisais référence tout à l'heure, avec tous ces bombardiers, les B-52 dans le ciel et tout, avec des gamins en bas qui courent, c'est vraiment pareil. Hein, voilà, c'est quelques films, parmi tant d'autres qu'a réalisé donc, Hayao Miyazaki.
Alors, voilà, d'où vient-il ? On le sait à peu près.
Hayao, d'où viens-tu ? Qui es-tu réellement ? On va parler de sa biographie. Donc, contrainte de fuir Tokyo, sa ville natale, sous les bombardements de l'armée américaine, voilà pourquoi je mettais l'accent sur le vent se lève, la famille de Miyazaki s'installe à quelques kilomètres de la capitale. Cette expérience laissera une empreinte profonde chez le cinéaste. Beaucoup des thèmes dont pêle-mêle, donc l'aviation, le deuil, l'enfance, l'attachement à la nature, qui sont explorés au travers de son œuvre provenant de cette période. Si vous réfléchissez bien, vous allez voir défiler plein de scènes de films, rien qu'avec ces quelques mots. L'aviation, le deuil, l'enfance, l'attachement à la nature. Alors l'aviation, évidemment, dans Le Vent se lève, mais aussi dans Porco Rosso, hein, qui est pilote. Inconditionnel de bande dessinée, il trouve très tôt sa vocation. À l'université de Tokyo, il suit des cours d'économie, mais ne renonce pas pour autant à son rêve. Il profite du temps libre qui lui laisse ses études pour parfaire son coup de crayon et perfectionner une technique qui ne tarde pas à le faire remarquer du studio d'animation Toei, la référence nippone en la matière à l'époque. Il entre en tant qu'intervalliste en 1963. Il y fait la connaissance de Yasuo Otsuka et Isao Takahata, deux personnalités importantes de l'animation. Les trois hommes travaillent ensemble au premier long métrage de Takahata, Les Aventures de Horse, Prince du Soleil, en 1968. Autant vous dire qu'ils se sont mis très vite à l'ouvrage. Mais la politique du studio entre rapidement en contradiction avec les ambitions de Takahata, qui invite Miyazaki à le rejoindre dès 1969 chez A Productions, le concurrent direct de Toei. Au sein de cette structure, il signe quelques courts-métrages pour le compte d'un autre studio, la société Nippon Animation. Il développe un projet d'envergure, donc qui est Heidi, donc en 1974. L'un des premiers feuilletons animés, c'est vrai, je l'ai oublié celui-ci. Et oui, on l'a tous vu dans le Club Dorothée. Heidi.
Ah oui,
la petite fille dans les Alpes.
Oui, je me rappelle.
Qui vit avec son grand-père et son gros chien blanc.
Ça a été d'ailleurs aussi une série ou un film qui avait été décliné.
Ouais. Donc l'un des premiers feuilletons animés. En 78, Miyazaki s'attelle avec l'aide d'Otsuka à sa première réalisation, la série télévisée d'animation Conan, le fils du futur. Unanimement saluée comme une réussite du genre. Donc à la faveur d'un nouveau changement de studio, Miyazaki réalise son premier long métrage, donc le château de Cagliostro, en 1979. Connu également sous le titre de Lupin III, cette épopée magistrale devient d'emblée un classique au Japon. Donc déjà très tôt, il travaille dur et il se fait vraiment reconnaître, il commence à devenir un maître en la matière. Après quelques projets inaboutis, Miyazaki décide de se consacrer à la bande dessinée et élabore l'épopée à épisode donc de Nausicaa de la Vallée du Vent. C'est par ce biais que le cinéaste revient en force dans le monde de l'animation. Il porte à l'écran sa première bande dessinée et fait l'unanimité avec Nausicaa de la Vallée du Vent en 1984. Le succès du film est tel qu'il permet à Takahata et Miyazaki de fonder leur propre studio, les studios Ghibli. Entièrement dévolu à l'animation de qualité, les studios Ghibli conjuguent exigences et succès public. Les deux associés donc enchaînent alors les projets, notamment Laputa, le château dans le ciel, d'après les voyages de Gulliver. Tu vois, il y a toujours une empreinte derrière, une idée qui est créée, qui est remise à la sauce. Donc en 86, le réaliste est nostalgique, donc aussi Mon voisin Totoro, et où Miyazaki évoque ses souvenirs et décrit, donc on va dire, le Japon d'après-guerre. En 1988, ou encore la fable donc porcine Porco Rosso en 92. En 97, le réalisateur s'attaque à Princesse Mononoke. Pardon, j'arrive pas à le dire celui-là. Mononoke, pardon.
Ouais, c'est pas évident.
Une fable épique où il reconnaît les influences conjuguées de Akira Kurosawa, donc dans La Forteresse cachée, et de Kenji Mizoguchi dans Les Contes de la Lune vague après la pluie. Le film remporte un énorme succès au Japon, attirant près de 15 millions de spectateurs. un record pour un film d'animation. Alors qu'il avait menacé de mettre un terme à sa carrière, il poursuit finalement sur sa lancée et réalise Le Voyage de Chihiro. Et oui, qui est un succès. Voilà, pour, franchement, il était à deux doigts avant de lâcher l'affaire et il nous pond une merveille. Le Voyage de Chihiro. Le film lui vaut cette fois une véritable reconnaissance internationale puisqu'il remporte l'Oscar du meilleur film d'animation ainsi que l'Ours d'Or au Festival de Berlin en 2002. Parallèlement, Miyazaki inaugure un musée à la gloire de l'animation, le musée Ghibli à Mitaka, au Japon, qui doit être génial. Il ne délaisse pas les planches à dessin pour autant et s'attelle à la réalisation du film, donc Le Château Ambulant, inspiré d'un roman de Diana Wynne Jones. Il opère ensuite un virage dans sa carrière avec son Ponyo sur la falaise. Avant tout destiné aux enfants, le film se distingue grâce à une animation plus simple et des dessins aux couleurs pastel. Des parties pris qui ne l'empêchent pas de réunir une nouvelle fois plus de 10 millions de spectateurs au Japon. En septembre 2013, le maître annonce officiellement sa retraite en tant que réalisateur de films d'animation. À 72 ans, il estime qu'un long métrage prendrait trop de temps. C'est ainsi qu'il quitte le métier la même année avec Le Vent se lève. On est en 2023, tu es toujours là, Yao, et c'est super. Un film plus réaliste, mais comportant quelques séquences de rêve. Malgré sa retraite, le géant de l'animation japonaise dit toujours vouloir travailler, et le studio Ghibli pourra toujours compter sur lui pour apporter son aide et son avoir. Mais oui, il nous revient. Il nous revient sur le devant de la scène, avec le garçon et le héron. J'aime beaucoup la retenue de ce réalisateur-là qui se dit « Non, mais voilà, je suis trop vieux. » Ça demande beaucoup de temps. C'est vrai que ça demande énormément de temps, un film d'animation. Hein. Ça demande peut-être des années. Je sais pas trop comment le quantifier.
Et donc, c'est plus complexe qu'un film.
Il tire élégamment sa révérence pour revenir encore plus fort. Et je trouve ça vraiment, vraiment émouvant et touchant de sa part. Hein. Je pense que, alors déjà, son film est un grand succès. Je pense que c'est un film aussi... pas forcément orienté vers les enfants, les garçons, les héros. À mon avis, il y a une réflexion encore plus profonde dedans. Hein. Et je trouve que c'est... Moi, je pense qu'il va être très, très bien. J'ai vu les images. Mm-hmm. Super. Vraiment, vraiment, vraiment de très, très belles images. Et on a vu un petit peu déjà au niveau de la sortie au Japon, qui s'est très bien passée. Moi, je lui souhaite beaucoup, beaucoup de succès. Et bien, Ayo, même si tu penses que tu es un vieil homme, moi, je crois en toi. Tu pourras revenir à chaque fois. Il n'y a aucun souci. Voilà, les gens attendent tes créations. Et puis, il faut savoir une chose. Oui, c'est un vieil homme. Il est né en 1941.
Oui.
Mais sachez une chose, c'est que le jour où il ne sera plus là, il y aura un vide abyssal dans la réalisation et surtout dans sa manière d'aborder les personnages.
C'est aussi la mémoire.
Les idées, exactement. Bon, il va marquer son histoire. Je ne vais pas l'enterrer trop vite, mais ça va faire un gros trou quand il ne sera plus là. Et il va beaucoup, beaucoup manquer au monde de l'animation. Ça, c'est sûr et certain. Ça sera une petite catastrophe, voire une grosse. Mm-hmm. Dans tous les cas, on lui souhaite de la santé, du peps.
Et une longévité.
Et voilà. Et surtout, voilà, du succès pour ce film-là en France. On va voir un petit peu comment ça va se comporter au niveau des résultats. Mais les gens connaissent son œuvre. Mm-hmm. Les gens qui ont vu Ponyo sur la falaise, il y a des années, quand ils étaient gamins, on continue à regarder ses œuvres. Donc, c'est marrant parce qu'il a émerveillé des générations entières. Des générations. C'est vraiment un très, très grand réalisateur qui a tout mon respect et toute mon admiration.
Eh bien, ça notait Le Garçon et le Héron. On ne manquera pas le rendez-vous. Et accessible aussi pour les jeunes. Donc voilà, tout simplement.
Ouais. Non, mais venez. Vous laissez porter par ces créations-là. C'est parce que c'est du voyage, Miyazaki. C'est vraiment du voyage. Tu rentres dans une espèce de dimension que tu ne connais pas. Lui, il t'amène dedans, tu sais, doucement, doucement, doucement. Et voilà, il te fait rêver, il te fait réfléchir. Voilà, c'est vraiment du cinéma complet, on va dire. J'aime beaucoup.
Pascal, merci pour cette petite parenthèse cinéma sur la radio, Radio Grand Air et Entracte, évidemment, ton émission. Ça fait déjà 2 ans. Cette semaine,
ouais,
ça fait 2 ans.
Ouais. À peu près, ouais. À peu près, on peut dire ça. Ouais.
J'ai commencé en octobre.
C'est même plus, tu vois.
Voilà, donc l'aventure continue.
L'aventure continue, bien sûr. Oui.
Et puis, n'oubliez pas, le 31, c'est quoi?
La soirée Halloween, venez nombreux.
Avec plein de bonbons, hein. Tout simplement. Allez, Pascal, le mot de la fin.
Eh bien, prenez soin des vôtres.
Regardez-moi la télé, écoutez Radio Grand Air et venez au ciné, il y a plein de choses à voir. Venez voir le Miyazaki. Voilà, c'est quelque chose. Et second tour aussi de Albert Dupontel, voilà, pressez-vous dans les salles, il y a plein de choses à voir. Il va faire mauvais, Ah oui. Et ben, c'est un temps, c'est d'aller au cinéma. Bonne soirée à toutes et à tous, et à très bientôt.
Merci Pascal, à très vite.